Salut les sapiens, welcome à la chronique Voir avec les oreilles sur
Radio Bigaille.
Laissez-vous aller dans ce voyage audio pour découvrir les acteurs du monde vivant qui nous entoure. Voir avec les oreilles, c'est l'émission à pas rater sur
Radio Bigaille.
Deux fois plus de bonheur et deux fois plus d'amis. Deux fois plus de taxis, voire double, ça change la vie. Alcool. Le monde me donne la gueule de bois et l'alcool arrange ça. Sans toi pas de Rimbaud. Sans toi on serait contraint de se bourrer à l'eau. Alcool. Le monde me donne la gueule de bois et l'alcool arrange ça. C'est la tristesse.
Bienvenue à vous encore, les auditeurs de Radio Bigaille. Pour cette chronique de Voir avec les oreilles, on va être ensemble un petit peu comme d'hab hein, maintenant pendant environ une heure. On va aller dans un petit pays qui n'est pas très loin de chez nous, hein, c'est l'Etelixtan. Et dans un premier temps, on va rencontrer Dominique qui est un bouilleur ambulant. Je vous propose de tendre l'oreille de temps en temps. Hein. Le reportage a été pris sur le vif. C'est ce qui rend tout l'intérêt, tout le côté tout vivant de la chose. Je vous laisse écouter, puis on se retrouve par la suite, donc, c'est-à-dire au bout d'une vingtaine de minutes, et pour aller voir encore un autre personnage, d'autres personnages de notre entourage. Allez, à tout de suite.
Bon, ben là, on se retrouve dans un endroit qui est du siècle dernier, avec un camion qui se déplie, avec des tôles, des grands fûts, des grandes cuves, avec un bouilloire qui est encore à bois. On entend le goutte à goutte qui fonctionne. Et ça y est, c'est parti pour...
Bon, voilà, déjà dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est que on réalimente la chaudière parce qu'on va vider le vin qui a fini d'être distillé.
D'accord.
Pour en préparer un autre. On appelle vider une chauffe pour en préparer une autre. Donc là, dans un premier temps,
on chauffe.
Je le laisse un peu se prendre, puisque vous voyez là, ça se démarre comme ça, je laisse un peu le bois plus s'éprendre.
C'est une machine qui a quel âge, ça?
Elle est des années 20, exactement, je ne sais pas. Je vais le savoir parce que j'ai retrouvé l'endroit où le distillateur l'avait...
Fabriqué?
Non, acheté.
Acheté,
que,
d'accord.
Hein. Parce que c'était à l'époque, il y avait des paroles de fabricants. Et donc ça, justement, avec ce distillateur qui est maintenant décédé, je vais pouvoir remonter son histoire. J'ai vu, en cas du village où il était, on va faire surmigrer, on va pouvoir refaire avec la mairie toute l'histoire de ce distillateur et donc de cet alambic.
Donc ça, c'est les restes qui sont après distillation, quoi.
Après distillation.
D'accord.
C'est-à-dire que le vin, une fois qu'il est distillé, là, il n'y a plus d'alcool dedans.
On fait
une matière inerte. C'est chaude, par contre, il faut la laisser se refroidir. Et voilà. Donc là, on s'en débarrasse.
D'accord. Et après, de pouvoir re-remplir dans la cuve.
L'autre est déjà prête.
Est déjà prête avec...
Elle attend.
Et c'est du raisin aussi, là, dans
ouais,
celle-ci.
C'est du vin. On fait que du vin sur celui-là. Là, d'accord. Aujourd'hui, on ne fera pas de fruits, j'en ai plus. Là. J'en ai fait, mais là, j'en ai plus. L'alambic est en place, là, mais il est pas simple.
J'aime bien le vin maintenant, plus qu'avant. Seulement, j'en bois plus.
Ça te fait du bien, papa.
Mais justement, là, quand tu parles des fruits du vin, mais le vin, c'est pas considéré comme un fruit dans le processus?
Non, c'est pas la même chose.
D'accord.
D'abord, enfin, surtout pour le distiller, parce que le vin, on peut le mettre sur... on appelle ça, ces alambics, les fenus, c'est-à-dire que la flamme, elle est directement sur le raisin, sur le liquide.
D'accord.
C'est comme une casserole, quoi, en fait.
Oui, oui.
Voilà, et là, il n'y a pas de problème. Par contre, les fruits, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des noyaux, il y a de la pulpe, il y a plein de choses. Si on le mettait directement là-dessus, le risque, c'est que ça rime. Vous savez, quand dans une casserole, ça brûle.
Ça brûle.
Et là, à ce moment-là, si on fait ça, ça veut dire que l'eau de vie va avoir un goût de brûlé, va avoir une couleur marron, c'est fichu. Et en plus de ça, quand l'alambic est rimé, c'est un vrai problème de
pour le nettoyer. Pour le nettoyer,
alors là, c'est pas simple. Donc pour faire ça, les fruits, on utilise des bains-maries, c'est-à-dire un système où il y a deux épaisseurs avec de l'huile ou de l'eau. Moi, c'est de l'huile entre les deux, qui fait que, bah, comme dans une casserole avec le bain-marie...
D'accord, je vois bien le processus, ça chauffe indirectement.
Voilà.
Bah, comme des chauffe-eau aussi, voilà. Peuvent fonctionner de cette manière-là.
Dis donc, toi. À partir de maintenant, tu vas arrêter l'alcool, hein? Compris?
Donc là, le feu va être directement sous la...
Dessous le cucurbite, puisque c'est ça son terme. Dans un alambic, c'est le cucurbite. Et en fait, c'est une grosse casserole en cuivre, quoi. Qui peut contenir 202, presque 300 litres. Quoi.
300 litres de vin, entre autres.
Voilà. Voilà, c'est pas le cas. Mais bon, c'est son maximum. Voilà. Ça y est, là, c'est fini. Le vin, et donc là, je vais re-remplir. Donc là, on ferme cette vanne de dimanche.
Oui.
On ouvre celle-ci. Alors doucement, parce que ça, en général, ça fait un peu de vapeur.
Donc là, de ce que je peux comprendre, le vin est là-haut, là.
Il est là-haut. Il constitue un refroidissement à l'origine, parce qu'il y a un autre serpentin en haut.
Dans d'accord.
Il s'est réchauffé. Et maintenant, là, il descend dans le cucurbit.
Dans le cucurbit, dans lequel il y a le feu de bois qui est juste dessous.
Voilà. Et voilà, là, c'est en train de se faire.
C'est en train de...
Là, ça descend. Donc le réchauffe-vin qui est là-haut est en train de se vider. Ça remplit le cucurbit. Je rouvre les trappes pour...
Attiser le feu.
Attiser le feu, voilà. On l'a étouffé un peu pour pas que ça chauffe trop pour abîmer le cuivre. Et maintenant, là, je fais couler...
Dans ce seau.
Les secondes que je fais, que j'ai alimenté là. Voilà.
Donc là, dans le seau, tu as de...
C'est-à-dire les fins, la fin de distillation. C'est-à-dire que la fin de distillation, il y a très très faiblement alcoolisé. Hein.
D'accord.
Mais on, plutôt que de le jeter...
De le jeter, ça réactive.
On recycle comme ça.
Voilà. Ma foi, c'est le but. Hein.
Voilà. Le but, c'est d'essayer de ne pas en perdre, quoi, c'est ça. Voilà. Là, cette vanne, je la ferme. Celle-ci. Je remets ça dessous.
Pour récupérer ce qui va...
Tout à l'heure, pour l'instant. Et là, maintenant, j'attends que ça, que le processus se termine pour refermer.
D'accord, pour refermer, entre autres, ce bouchon, ouais, ouais. Là, qui...
Bah, qui a un bouchon de vidange aussi, parce que c'est un système de joint hydraulique. Mm-hmm. Donc, si jamais on ne l'ouvrait pas, bah, il y aura un problème d'aspiration, donc le joint disparaîtrait.
Donc là, ce cucurbite, là, ça chauffe directement donc, sous ouais. cette grande barre d'étang cuivre. Et quand tu parlais donc de fruits et donc de chauffe indirecte au bain-marie, ouais, c'est sur quel c'est sur le...
Ah non, c'est un autre. Hein.
C'est un autre, hein, d'accord.
Qui est à l'extérieur.
Ah d'accord, c'est un autre, c'est carrément un autre...
Ah, oui, c'est un autre d'accord. Moi, je travaille sur trois types d'alambics, un bain-marie, un fenu et un continu. Le continu étant celui-ci, mais qui ne fonctionne pas aujourd'hui.
D'accord, ok.
Donc le continu, c'est une autre...
Une autre manière.
C'est une autre manière de distiller.
C'est un produit naturel, même les enfants pourraient en boire.
Ok, toutes ces différentes distillations, ça va amener une différente... C'est par rapport aussi aux fruits, et puis ça amène une différente saveur.
Voilà, les fruits, la quantité. Mm-hmm. Bon, maintenant, on n'utilise quasiment plus les continus, parce qu'il y a
très peu de quantité.
Les quantités ne sont plus les mêmes qu'auparavant.
Et de ce que tu me disais la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est qu'il faut quand même pour des fruits un minimum de 50 kilos
oui, bah,
pour
oui.
que ça puisse voilà. mettre tout en route. Quoi.
Voilà, voilà. Et puis que ça puisse rendre quelque chose au bout du compte. Quoi,
50 kilos, ça rend quoi
ça dépend de ce qui se passe, mais on va dire. Ça dépend. Ça dépend.
D'accord.
Voilà. Ça dépend de la préparation, c'est. Voilà. Mais bon, 2-3 litres, ça dépend ce que ça fait.
Ce que ça fait. Hein.
Voilà. Et de la préparation.
Et est-ce que tu peux me redire ce que tu m'as dit la dernière fois, justement, par rapport au défaut de langage que l'on a quand on parle de bouilleur de cru, on t'appelle bouilleur de cru, alors que c'est pas ton...
En fait, on nous appelle souvent les bouilleurs de cru, or que non, les bouilleurs de cru, ce sont les personnes qui viennent distiller.
Qui viennent
nous, en fait, notre vraie appellation, c'est bouilleur ambulant, loueur d'alambic.
Loueur d'alambic, voilà. D'accord.
Donc c'est ça,
et le bouilleur, soyons précis.
Cru, le bouilleur de cru, c'est la personne qui vient pour distiller.
Qui vient, d'accord, voilà. Ok.
Mais bon, ça c'est...
Ouais, c'est ça, passé c'est... dans le langage quand même.
Ouais, ouais, voilà.
Mais c'est bien de le rappeler.
Bah oui.
Ouais, pour...
disons, ça donne un peu l'idée. Et même sur les documents qu'on remplit dans le cadre des douanes et
des CERFA et tout ça.
C'est bien marqué dessus que la personne a une bouillure de cru.
D'accord, ok.
Donc voilà.
Et donc, tu fonctionnes à l'année, tu as une période, j'imagine que tu as une période bien précise par rapport à la fermentation des fruits.
Moi, je travaille du 1er novembre au 30 juin, début juillet, selon les cas.
Ça a donné un bon moyen. Quand tu vois d'où, n'est-ce pas, quand tu entends du... Hein, t'as qu'à fermer un œil. Non, un borne, il ne va jamais double.
Tu vas allumer le générateur, d'accord, pour avoir de l'électricité.
Parce que là, je vais mettre de l'eau en haut pour refroidir.
Donc, c'est pour faire fonctionner ta pompe.
Voilà.
D'accord. Ça. Allez.
C'est ma dernière chose, là, je mets de l'eau. Normalement, je mets du vin, mais comme c'est fini.
Et comme ça te permettra de faire un pré-rinçage.
D'une part, et en même temps, il faut que je refroidisse parce que j'ai un serpentin là.
À l'intérieur ?
Oui. Donc si ce serpentin n'était pas refroidi, je ne tiendrais pas la chauffe, il y aurait un problème à un moment donné. Si je veux baser que sur cette partie-là en eau,
là, ce serait pas suffisant.
Ce serait pas suffisant.
D'accord.
Et après, effectivement, moi, ça me permet demain de le nettoyer, parce que je vais tout démonter.
Et repartir.
Enlever tous les tuyaux, parce que avec la route, ça finirait par s'abîmer.
Ouais, d'accord.
Se souder, tandis que j'enlève les tuyaux, et cette grande coupole, là, je l'enlève. Pour pouvoir nettoyer dedans.
Là, on dirait une soucoupe volante, là. Ça...
Ouais, c'est un peu ça, c'est pas léger d'ailleurs.
C'est pour refroidir, pour répartir la chaleur ou...
Ça, quoi, ces trucs-là là
ouais.
Non, ça c'est des lentilles, c'est-à-dire qu'en fait la distillation, c'est passer d'un état gazeux à un état liquide. Pour ce faire, et il y a un combat entre les deux, c'est entre les vapeurs d'eau et les vapeurs d'alcool. Les vapeurs d'alcool sont plus volatiles,
ouais.
Commencent plus tôt, à 60 degrés, 70 degrés. Et en fait, c'est un combat, donc c'est pour ça qu'il y a des lentilles qui freinent déjà un peu. Là, c'est une grosse bonbonne de rectification qui fait que c'est des petits coupelles qui font qu'il y a un combat entre les deux.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on récupère de l'eau, parce que la vapeur d'eau étant plus lourde, l'eau retombe au fond,
d'accord.
Alors que les vapeurs d'alcool continuent à monter, elles. Et à la fin, c'est elles qui sont refroidies et qui descendent là-bas.
Et qui descendent là, voilà. Que tu récupères dans ton seau. Quoi.
Et l'eau, c'est de l'eau qu'on récupère et que l'on vidange régulièrement.
Mm-hmm.
Pour éviter que ça arrive à boucher tout le dispositif.
Tout le dispositif, voilà. D'accord, ok.
Voilà, donc ça c'est le type d'un fenu avec un réchauffement, c'est ça. Après, ben, les fruits c'est encore autre chose, mais là, c'est pareil, hein, c'est une grande, un petit cucurbite plutôt, un petit,
ouais,
avec un système de chapiteaux, de lentilles et de col de cygne. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup en Moselle, parce que c'est un Moselle, il vient de Moselle, j'en ai même un deuxième. Qui vient aussi de là-bas.
Mais là-bas, oui.
Voilà, et qui sont. Alors, dans l'Alsace-Lorraine, le régime étant différent.
C'est ce que tu m'expliquais un petit peu.
Les gens ont soit ça chez eux, avec évidemment une autorisation spécifique, soit ça peut être communal. Donc, là, les gens, ils font une déclaration, ils prennent un papier, ils font que c'est un forfait. S'ils sont en dessous, tant pis, ils sont en dessus, je ne joue pas trop mieux, mais là, je ne suis pas très sûr de moi. Et après, ils vont chercher le col de cygne à la mairie et ils le ramènent.
Et ils le ramènent, d'accord.
Et c'est la mairie qui gère l'installation, le matériel,
l'entretien, les...
voilà.
Etc.
Voilà. Et, mais nous, autrement qu'un Alsacien en Lorraine, c'est pas autorisé. Quelqu'un qui détiendrait chez lui un alambic clandestin se verrait, s'il est contrôlé, en difficulté, puisque c'est pas autorisé.
Seulement, on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors ça faisait des histoires. Allez!
Bon, bah c'est agréable quand ça s'arrête, hein, aussi. Il n'y a pas pour longtemps, mais... Donc ça y est, là, les 200 litres sont montés dedans.
Voilà, donc là, c'est parti. Donc là, le jeu consiste à chauffer, et puis attendre que la distillation se mette en place. Voilà.
Donc là, tu gères par expérience, gères un peu ton feu, ton débit, tes vannes.
Pour l'instant, voilà, c'est ça. De toute façon, ça va se déclarer.
Lorsque ça va se déclarer, visuellement, on va le voir de ce petit entonnoir là.
Ça va se manifester ici, parce que j'ai laissé ouvert une vanne qui va nous dire que la distillation va commencer.
Va commencer la vanne que je vois dessus.
Je vais la fermer.
Quand ça commence à goûter, d'accord.
Et puis ensuite, après, on va s'en voir que l'eau de vie va commencer à goûter, et je fermerai une autre vanne, et puis voilà.
Et puis après, tu laisses faire.
Voilà. Et après, je surveillerai. Enfin, il y a tout un tas de,
j'imagine,
de processus à avoir. Et puis, on va...
Et voilà. Donc, par la suite, toi, quand cette machine, donc, tu vas mettre au repos, là, de ce que j'ai compris, t'as déjà des alambics plus modernes pour pouvoir continuer à...
Ah non, c'est ceux-là que j'utilise.
D'accord, ok.
Pour l'instant, moi, j'ai pas d'alambic plus moderne que celui-là.
Que celui-ci, d'accord.
Non, que je travaille avec que du vieux matériel. Alors, parce que je trouve que c'est intéressant de le faire comme ça, et puis ça rajoute un petit... Enfin, une qualité aussi.
Une qualité, et puis...
Puis sauvegarder
le plaisir du savoir-faire.
Puis sauvegarder des vieux outils.
Des vieux outils, le savoir-faire,
les perdurer. Parce que ça, c'est un vieil outil, en fait, et ça demande pas mal d'entretien.
Ben j'imagine.
C'est un peu comme une vieille locomotive, hein. C'est comme plein de choses, ça c'est caprice, ça c'est manière de faire, c'est...
Il faut la connaître, hein, le ronronne et tout ça,
c'est au bruit, c'est aux anticipations.
Ouais, anticipation.
Il n'y a rien qui est, comme dans certains chais, normé, et puis des fois, on a des surprises, mais pas toujours bonnes, mais des fois ça va, après on rectifie.
Et donc ça fait longtemps que tu fais ça ou...
Moi ça fait 3 ans, pas tout à fait.
3 ans, d'accord. Ouais.
J'ai repris, j'ai commencé à suivre mon prédécesseur.
Oui.
Puis après, j'ai passé mon diplôme d'État à Laval. Et puis après, je me suis débrouillé. Et puis on en apprend tous les jours. Hein. De toute façon, c'est un métier où on apprend tous les jours. On fait des découvertes et puis on s'améliore. Et puis en même temps, il y a quand même toujours un peu les mêmes dénominateurs pour arriver à s'en sortir.
Donc voilà. il faut un diplôme d'État pour
Alors,
pouvoir
c'est
s'installer.
Ce n'est pas une obligation. C'est fortement recommandé, mais ce n'est pas une obligation. Ceci dit, en ayant un diplôme d'État, on a quand même des notions de sécurité, des notions de... Enfin, plein de choses qui font que c'est quand même avoir la certitude d'avoir un produit de qualité avec un professionnel qui a les connaissances correspondantes. Après, c'est vrai que il y en a qui peuvent quand même s'installer sans tout ça. Ceci dit, c'est pas très logique parce que faire un métier sans connaître les
tenants, les aboutissants, voilà, les fondamentaux,
c'est un peu spécial quand même.
Et donc par rapport à la loi et la réglementation aujourd'hui, c'est quoi? Parce qu'on entend parler que ça se passe de père en fils, que licences sont plus renouvelées, enfin c'est ce qui est un petit peu...
En fait, il y a un dispositif qui fait que tout le monde peut distiller, à condition de payer une demi-taxe.
D'accord.
Les gens qui ont, quelques-uns encore la franchise d'une époque, principalement les gens qui ont fait l'Algérie et qui étaient agriculteurs avant de partir à l'Algérie, ont conservé leur, et d'autres après, selon les cas, ont le droit de franchise, c'est-à-dire des 1000 premiers degrés gratuits. Ceci dit, comme pour tous les autres, ils ne l'ont pas, mais c'est quand même la grande majorité, il y a une demi-taxe à payer en fonction de la production et du calcul d'alcool pur.
Ok. Bon,
donc voilà, puis c'est un taux, et puis... En payant ces taxes, tout le monde a le droit.
Tout le monde a le droit, d'accord, ok.
À condition d'avoir quand même chez lui, un verger. C'est-à-dire que si on est dans un immeuble avec un appartement, on n'a pas un verger, donc on ne peut pas avoir ce droit-là. Il faut avoir un...
Ah, il faut avoir donc un verger, des terres et un verger...
Enfin, des terres, non, mais même ne serait-ce qu'un jardin, avec dedans un grand jardin, avec des fruitiers. Bon, ben là ça permet de le faire.
D'accord, ok.
Voilà, c'est un peu ce qui se passe en Alsace-Lorraine, ça a été s'étendre un peu le reste de la France. Et en fait, avec ces vergers-là, on peut distiller. Lors des prunes, des poires, un petit peu tout ce que les gens peuvent avoir chez eux de manière traditionnelle. Quoi.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave.
Hein? Si. Il y en a aussi.
Et pour en venir justement aux fruits, là, toi tu viens au mois d'avril, là, Vosgé, avril-mai, les fruits qui sont mis à fermenter...
C'est l'année précédente.
Donc ils peuvent rester dans les fûts avec un barboteur pendant 6 mois ou quelque chose
En fait, il faut prendre des fûts bleus là, avec un système de cerclage.
De cerclage.
On fait fermenter comme convenablement les fruits. Une fois que c'est fini, on ferme pour éviter que l'air s'introduise dedans et fasse en sorte que ça devienne du vinaigre. Quoi. Donc en fait, une fois que ces fruits sont fermentés, bien fermés, on peut même les garder 2 ans, il n'y a pas de problème.
D'accord, une fois que c'est
fermé. Par contre, il ne faut pas l'ouvrir. Ça, il ne faut pas s'amuser à regarder de temps en temps ce qui se passe dedans, parce que là, par contre, on fait rentrer l'air, et là, ça va devenir un produit qui sera altéré. Quoi.
D'accord, donc il n'y a pas nécessité d'avoir un barboteur, là je voyais chez des gens discuter, c'est des petits cols de cygne où on met comme un bouchon qui est mis dessus.
Oui, ça c'est une possibilité aussi. Il y a plusieurs techniques. Ça, cette histoire de tuyau, c'est en fait le principe de la bonde aseptique. C'est une bonde aseptique bricolée, c'est-à-dire qu'on fait un creux dans le couvercle noir,
exactement.
Avec un système de tuyau qui part et qui plonge dans une bouteille d'eau. C'est-à-dire que les gaz vont s'échapper par ce tuyau et l'eau évitera que l'air rentre dedans. Voilà, c'est une bande aseptique bricolée qui a le mérite de pas être souvent et de pas cher. Et puis ça peut. Mais alors par contre, il faut mettre tout le produit en même temps. Alors que si des fois on n'en a que 10 kilos, quelque part, vaut mieux utiliser un autre dispositif, de le remplir, de le remplir régulièrement. Enfin, au début, il faut de toute façon. Essayez plusieurs fois avant d'y arriver convenablement. Et on est là pour donner des conseils quand les gens hésitent.
Tiens, vous avez sorti le vitriol ?
On m'a emmené en disant que lui ne le trouvait pas forcément bon.
C'est toujours agréable.
Non, mais c'est pas ça, mais c'est que moi j'ai trouvé la différence. J'ai trouvé pas mal. Et il a tenu absolument à le rebrûler. Mais j'en ai gardé un peu. Il m'a dit t'en garderas un peu si tu veux.
Allez.
Et je le trouve pas mal. Un peu ancien, mais...
En tout cas, il a un bon goût.
Oui. Hein.
Il a un très bon goût. Oui.
Bon, très bien. Bon, allez, on va passer à la table.
systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante, la vie est-elle tellement vivante, je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Dès que j'ai des loisirs pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
On vient d'avoir un bon aperçu de la transformation des fruits en alcool, en eau de vie. On reste toujours en Étilixtan, joli pays, mais on va cette fois-ci changer de région. On ne va pas aller bien loin, puisqu'on va aller à Pont-l'Abbé d'Arnoux, à la rencontre de Guénin et Morgane, qui ont ouvert une brasserie artisanale il y a 5 ans maintenant. Allez, on va tous ensemble boire une petite boque à la brasserie.
Tiens, salut Linda.
Hey, salut Jérôme.
Tu viens juste d'arriver. C'est sympa, là, on se retrouve
oh là là.
Sur le parking de la boque, hein, c'est ça?
Ah, bah oui, je crois, oui. Ouais, regarde, il y a écrit boque là.
Eh bah, il y a écrit boque dans ce hangar. Allez, on y va.
Oh là là. Oh, j'aperçois Guénin là-bas.
Où?
Oh, regarde la cabine.
Ah, ouais, elle est la cabine.
Ah, elle est au poste de commande.
C'est génial ici.
Ah, ouais, c'est grand. Hein.
Et puis on voit, il y a toute la brasserie qui est en visuel.
Ah ouais, c'est trop beau.
D'accord.
Les machines. Ah, regarde.
Les fûts
recyclés.
T'as le bar. Ah, bah c'est une atmosphère, c'est quand même avec un petit peu plus de degrés extérieurs. Je comprends qu'on en arrive à se faire des belles rencontres ici. Et puis,
Ah, bah oui. Puis regarde, les pommes canapées, ça donne vraiment envie. Hein.
Exact. Ah, regarde-moi ces bécanes.
Ça voudrait une bonne boque, là. Ah.
Bon, bah écoute, on va aller...
Ça sent bon.
Ah bah oui, ça sent... Non, c'est pas le couscous, donc. Hein.
Non, c'est pas le couscous, je crois pas, non. On va lui demander Morgane, qu'est-ce qu'il vient de prendre. Ça sent la boulangerie.
Exactement, mais si j'ai compris, il finit un brassin, là.
Ah oui, regarde, il vient de prendre d'expliquer.
D'expliquer à des gens, des clients, nickel. Salut Guénin, salut.
Salut.
Merci.
Salut Guénin.
Ça va.
Bon, on se retrouve dans les locaux de la brasserie Bock, donc bière originale charentaise. Salut Guéna, salut Morgane. Est-ce que vous voulez un peu vous présenter pour les auditeurs de Radio Bigaille?
Oui, ben, on veut bien se présenter. Alors, moi, je suis Guéna et j'ai monté la Bock 17 avec...
Morgane.
Mon frère.
Vous êtes ton frère, d'accord, ok. C'est une histoire de famille alors.
C'est une histoire de famille, voilà, c'est ça. On a monté ça en 2016, en début 2016. Voilà. C'est lancé dans l'aventure brassicole.
D'accord, et 2016 c'était quoi? C'est le projet ou le début du projet?
C'était l'aboutissement du projet.
L'aboutissement du projet.
Oui, parce que c'est vrai que le projet a été plus long à se monter, environ 2 ans et demi. Où on a commencé à brasser dans le garage.
Dans le garage, donc ça, en 2013.
Ça, dans le garage de la maison.
Voilà. On a commencé comme ça.
Puis au bout de 2 ans de boulot, on s'est lancé, on a ouvert la brasserie en vrai.
Alors cette idée de lancer ce nouveau métier, parce que vous n'étiez pas dans la brasserie avant?
Non, c'est une reconversion professionnelle pour tous les deux. Et on a décidé voilà, de se lancer là-dedans. On a été se former dans le nord de la France. Moi, j'étais en formation et pendant la formation, j'ai demandé à mon frère s'il voulait me rejoindre.
Donc toi aussi, tu as fait la formation?
Oui, voilà, moi j'ai fait la formation 3 mois à peu près.
À Douai,
ouais. Voilà, également. Elle m'a demandé de la rejoindre dans l'aventure. Forcément, moi j'étais partant aussi, chercher un autre challenge, parce que c'est aussi une reconversion. Et aujourd'hui je suis bien content d'avoir...
Dès la fin de la formation, vous avez commencé à faire vos petites mixtures
maison, voilà. dans le garage. Après ça, on a commencé à faire des essais dans le garage. On a acquis une petite micro-brasserie, picobrasserie qu'on a pu installer, puis faire des tests, mettre au point les premières recettes de blonde et d'ambrée.
D'accord,
et puis quand on a trouvé que c'était suffisamment présentable, on va dire...
Ça c'est vos copains qui l'ont dit.
Voilà. on a cherché un local, monté le business plan, des fournisseurs, etc. Et puis se jeter dans le grand bain.
Donc
quoi.
Une fois que la recette était validée, vous allez chercher après les locaux et tout ce côté-là.
C'est ça, voilà. Et on a trouvé à Pont-l'Abbé, on est plutôt pas mal.
Ouais, c'est un lieu qui vous convient.
Donc voilà, et puis une fois qu'on a trouvé le local, il a fallu faire les travaux.
Ça
a été une bonne partie aussi.
Ça
n'a
pas été une mince affaire aussi. Ouais.
Voilà, et puis 6 mois après, on était prêt à ouvrir au public et faire une petite fête d'inauguration.
L'inauguration donc en 2016.
Voilà. Et c'était parti.
Alors, il y a l'aventure et effectivement la création du projet, la reconversion, les travaux et puis il y a aussi la fabrication proprement dite de la bière. Alors, comment ça se passe concrètement? Vous nous racontez?
Concrètement, c'est finalement assez simple de faire de la bière parce que si on aime bien faire la cuisine, finalement, c'est un peu la même chose.
C'est une recette.
C'est une recette, voilà. Il faut être après méticuleux sur les ingrédients, les cuissons... les temps de cuisson,
la propreté
également, effectivement, parce que avant de commencer à brasser, il faut nettoyer. En général, on nettoie avant de nettoyer, et après on peut brasser.
En tout cas, ça a l'air d'être apprécié, les clients arrivent, donc c'est plutôt une bonne chose.
Oui, effectivement. Donc effectivement, beaucoup de nettoyage, et puis après la fabrication en elle-même, c'est 3 grandes étapes qui se déroulent dans la journée. Donc la première qui est le concassage du malt, donc qui peut être de différents céréales, il peut y avoir de l'orge, malt d'orge, du malt de seigle, d'épeautre, d'avoine, voilà, on peut utiliser plein de céréales différents. Qu'on va concasser, donc le but de réduire en petits morceaux le grain, l'écorce qui va nous servir de filtre plus tard naturel dans le processus de fabrication. Et donc ces grains-là, on va les tremper dans l'eau chaude à environ 68 degrés pendant une heure à peu près, une heure et demie. Et c'est là où on va faire une infusion en monopalier, ce qu'on appelle simple, et on va essayer d'extraire tous les sucres qui sont contenus dans l'amidon, en fait, du grain qui va être découpé. L'amidon va être découpé en plein de petits morceaux de sucre complexe ou simple et qui seront ensuite fermentés plus tard dans un processus un petit peu plus loin dans la production. Ensuite, on a donc cette phase d'empattage, on a une phase de filtration, c'est-à-dire qu'on, comme je vous disais tout à l'heure, on va utiliser les grains comme filtre naturel, donc on va recirculer tout le liquide à travers, ce filtre naturel. Ce qu'on peut voir, voilà ce que j'ai extrait, de la journée, effectivement, ce qu'on appelle la drèche. Voilà les résidus de malt d'orge.
C'est ça qui sent bon.
Oui, ouais, c'est ça, cette odeur de pain, un peu de boulangerie.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai.
Effectivement, donc, le matin, au moment de l'empâtage, donc ce moment-là est assez agréable quand on fait mélanger à peu près, donc à la brasserie en moyenne, c'est 200 kg de céréales, entre 200 à 300 kg pour faire 1000 litres de bière.
Donc pour un brassin, c'est ça, c'est,
ouais, voilà, c'est ça, c'est les quantités qu'on utilise à peu près. Donc après, on peut utiliser différents types de malt pour nous donner des bières plus noires, plus foncées. On va avoir des grains qui vont être plus torréfiés.
C'est votre recette.
Voilà, c'est des assemblages que chaque brasseur va trouver.
C'est ça, vous avez fait plusieurs expériences avant de trouver ce qui vous convient.
Alors, au niveau du maltage, et puis après, il y a le houblonnage, donc c'est la partie suivante, où une fois qu'on fait ça, on filtre en chaudière d'ébullition pour faire bouillir le mou, et on va y rajouter le houblon, qui va cuire 1h30 environ.
C'est jusqu'à ébullition.
Ébullition, pendant 1h30 d'ébullition. Et on va mettre le houblon le plus amer qui va cuire le plus longtemps, l'aromatique le plus. Qui va cuire très peu de temps, environ quelques minutes. Et ensuite, on va refroidir tout cet ensemble, à une température de 20 degrés. Donc c'est un moment qui est assez capital
aujourd'hui, de fabrication. En ce moment, c'est cette phase-là.
Et c'est ce que je suis en train de faire, effectivement. Voilà, on va refroidir avec un refroidisseur à plaque. L'objectif, voilà, c'est de refroidir très rapidement un mou qui est à 98 degrés, à 20 degrés en quelques secondes. Pour le mettre dans le fermenteur, pour qu'il puisse fermenter à une bonne température, avec la levure qu'on ajoute également, qui va permettre la fermentation des sucres.
Et vous faites vous produisez combien de litres de bière plus ou moins
En moyenne, on va dire qu'en sur une période normale, si on reprend, on va dire 2019, voilà, on produit 10 hectolitres par production, 1000 litres. On a capacité de 2 fermenteurs de 20 hectolitres et 2 de 10, donc ce qui nous permet d'à peu près faire 60 hectolitres mensuels. Et une production annuelle, normalement, avec l'équipement qu'on a, d'environ 680-660 hectolitres en temps normal. Voilà. Bon, aujourd'hui,
le contexte
fait que effectivement, la production n'est pas au niveau d'attente espérée. Mais, voilà, c'est la capacité de la brasserie, à peu près, à l'heure actuelle.
Et juste pour reprendre par rapport donc, au cycle de production, au revoir. Donc après le refroidissement à 20 degrés, comment ça, c'est quoi la suite après ?
Eh bien la suite, ça rentre dans le tank de fermentation. Donc la bière rentre dans le tank de fermentation où on ajoute la levure. Et donc la levure, elle va grignoter les sucres et les transformer en alcool. Donc il va y avoir tout un processus de biotransformation au niveau des houblons et des levures qui vont s'opérer.
Là, c'est la levure qui bosse pour nous à ce stade.
Et elle bosse pendant combien de temps, cette levure ?
Environ 7 jours, d'une moyenne assez active, à une température de 20 à 22 degrés. Voilà, c'est ce qu'on appelle les bières de haute fermentation.
D'accord.
Les ales, contrairement aux lagers, qui sont des bières de basse fermentation, qui fermentent entre 12 et 14 degrés, comme beaucoup de bières tchèques.
Une bonne Bock 17 bien fraîche.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Ah, mais pas pour moi.
C'est de l'eau.
Bon, donc on était à la suite de la fermentation haute température. Non, comment tu l'appelles ?
Fermentation primaire.
Fermentation primaire. Alors voilà, après la suite.
Dans le fermenteur. Donc ensuite, elle va rester dans le fermenteur, la bière. Et là, elle va être gardée à froid. Donc c'est la garde au froid qui va se situer entre 2 et 4 degrés. Et là, on va rester une vingtaine de jours, entre 15 jours et 3 semaines, ça va dépendre des recettes aussi. Voilà. Et là, c'est à ce moment-là que la bière va acquérir sa brillance, se charger en CO2. C'est là aussi où on peut rajouter éventuellement des choses. Enfin bon, c'est la garde au froid qui dure un peu moins de 3 semaines. Et après ça, c'est là qu'on va pouvoir procéder à l'embouteillage.
Donc si je comprends bien, elle reste dans la même cuve qui va être à 25 degrés. Et après, vous allez dans cette même cuve refroidir,
la
température.
Les fermenteurs sont thermorégulés et on peut contrôler la température du fermenteur dans la même...
le cube, voilà. Donc ce qui est une bonne chose.
Voilà. Et ensuite, on va procéder, donc après ça, à l'embouteillage ou à l'enfutage, en fonction de,
oui, suivant
voilà, donc le conditionnement. Et donc là, après la mise en bouteille, la bière va être mise dans une chambre chaude où elle va refermenter une deuxième fois. Donc là, pour à peu près 3 semaines aussi, à 23 degrés.
Mais ce processus là, de chambre chaude, c'est uniquement pour les bières artisanales ou c'est
pour
toutes les bières qui sont faites comme ça?
C'est un processus de fabrication, c'est un choix de processus de fabrication, parce qu'effectivement, on peut avoir aussi des bières artisanales qui sont saturées au CO2. C'est en fait avant tout des choix techniques de réalisation, notamment par rapport aux fermenteurs qui sont proposés.
Autant il y a des artisans qui peuvent faire de la refermentation comme ça et de l'isobarométrique, par contre, il y a peu d'industriels qui font de refermentation.
Oui, parce que ça prend c'est trop chronophage, ça prend trop de temps. Quoi.
Bah, voilà, parce que là, on double le temps de fabrication.
Et pour ceux qui ne font pas cette double fermentation, le gaz est injecté au moment de l'embouteillage?
Voilà.
D'accord, ok.
D'accord. Ouais. Donc là, vous avez quand même, je vois dans l'armoire derrière Jérôme, je vois que vous avez plein de références quand même.
Bah, il y a des références permanentes et puis il y a des références éphémères, parce qu'on a aussi une gamme de bières, les COB, les cuvées originales des brasseurs, qui sont le miroir de la BOC, et dans lesquelles on essaye des styles, on essaye des recettes, on se fait plaisir. Et puis, si elles sont vraiment réussies et très demandées, bah, peut-être elles peuvent candidater à rentrer dans la gamme BOC 17. Hein.
Bah, oui.
C'est arrivé à certaines.
Ouais. Et du coup, vous collaborez aussi avec d'autres artisans et d'autres producteurs, du coup, parce que j'ai vu, vous avez quand même des références aussi.
Eh ben, on essaye de sourcer au plus près de chez nous. Ce n'est pas toujours possible au niveau de nos matières premières. Les plantes aromatiques, on a une partenaire depuis le début qui est à Saint-Savinien, aux Graines Buissonnières, qui est une super production de plantes aromatiques bio. Après, depuis un an, on a la grande chance d'avoir une malterie qui s'est montée à Saint-Jean-d'Angély. Première moisson, malterie de l'Ouest. Le malt première moisson et qui est... Tu as pu le voir, de très bonne qualité, puisqu'on a un super rendement aujourd'hui. Le brassage était productif une fois de plus. Et puis surtout, on a du malt produit, enfin de l'orge, qui est produit en Charente-Maritime ou en Deux-Sèvres, et qui est malté à Saint-Jean-d'Angély, plutôt que
traverse l'Europe dans le bon sens.
Donc on essaye, dès que c'est possible, de se sourcer au plus près.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien, le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de verres pleins qui vont à kermesse, comme vont à messe vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelé. Chez nous y'a que l'été, que les fillettes encore. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs. C'est plein de débutants qui soignent leurs féroles en caracolant de Prosit en Skoll. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière. c'est plein de coffres d'hommes, c'est plein d'Amsterdam, c'est plein de mains d'hommes au groupe des femmes, c'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, Dieu qu'on est bien, ça sent donne-moi la main, c'est plein d'horizons à vous rendre fou, mais l'alcool est blond, le diable est à nous. Les gens sans Espagne ont besoin des deux, on fait des montagnes avec ce qu'on peut. Ça sent la bière de Londres.
Donc il y a toute la matière première, mais il y a aussi tous les consommables et tout ce qui va autour du conditionnement. Comment ça se passe, hein?
Oui, effectivement, bah, pareil, hein, dans la même logique d'essayer toujours de prendre le plus local, sur des conditionnements, sur les cartons par exemple, une entreprise qui vient de Jarnac, les étiquettes également. Voilà, sur les bouteilles sont françaises. Si on peut parler du matériel de la brasserie également, une partie de la brasserie est chaudronnée à Nantes par une entreprise
Morinox.
On essaye voilà, dans la logique. Effectivement, il y a quelques petites choses. Certains houblons, certains conditionnements qu'on ne peut pas obtenir très proches.
Les filières se reconstruisent petit à petit.
Oui, ça va dans le bon sens. Tout ce que vous êtes en train de faire depuis le début, il y a une cohérence.
Mais c'est pas toujours
valeurs.
Évident.
Effectivement, ce qui est en train de se développer, ce qu'on attend nous prochainement dans notre région, c'est une houblonnière.
Qui
localement aurait du sens parce qu'effectivement il y a un bon développement brassicole dans la région et ça serait super de pouvoir se fournir localement sur cette denrée-là.
À défaut, c'est l'Alsace en majeure partie.
Voilà.
Ça reste en France.
Mais
c'est pas très local.
Ça fait quand même voyager les camions.
Tout à fait.
Donc la BOC, c'est de la bière et puis des amis. Vous c'est faites ça. Aussi des événements tout autour de ça. Là.
Oui, et dès que ça sera possible, je vous donne tous rendez-vous à la BOC 17 pour une grosse bamboc.
Ok, une bamboc.
Au plus tard, on espère début juillet pour l'anniversaire. Si on peut avant, on le fera.
Et sinon, qu'est-ce que vous avez fait avant là ? Qu'est-ce que vous faisiez avant
à la boxe, c'est les after-work du vendredi avec le food truck, c'est le marché de Noël, des concerts, c'est aussi des tournois de palais. Qu'est-ce qu'on a organisé encore ? Tout ce qui paraît convivial et qu'on peut faire autour d'une bière, c'est envisageable à la boxe 17, quoi.
Donc voilà, il n'y a plus qu'à le refaire, à continuer.
On est prêt.
Tout est prêt, d'accord.
On attend, comme la bigaille.
Comme la bigaille, on attend.
On est dans les starting blocks.
On est prêt.
Un petit mot pour la fin ? Vous avez quelque chose à
faire
passer ?
Parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, en ce moment, on vit des temps pas faciles. Et c'est vrai que nous, ce qui nous maintient à flot aujourd'hui, c'est tous les gens qui viennent à la brasserie, qui
et
sont
on
là,
vous remercie.
Qui nous lâchent pas. Et ça, c'est important. Et merci à eux.
On garde le moral.
Et sachez aux autres qui n'osent pas venir, qui pensent qu'on est fermé à cause de.
Que vous êtes ouverts.
On est ouverts.
Donc venez à la brasserie.
Et
de la bière.
Le message va passer.
Sur place. Hein. Et voilà, n'hésitez pas. Et en tout cas, merci à tous ceux qui nous soutiennent.
Nickel.
Merci encore.
Et on va finir par le slogan. Donc le slogan.
In Buck We Trust.
Yes, indeed.
Merci.
Tu veux pas ouvrir les bars, oui? Ouvre les beurs, on t'a dit!
Viens me voir, on ira boire ce doux nectar
jubilatoire, qui nous rend fou, qui nous rend flou, qui donne le goût d'être entre nous et de chanter, puis de scraper le karaoké qu'on a loué la veille. Pauvre de nos oreilles, les chansons sont éternelles, mais le soleil lui se réveille. Oh, de la bière, s'il vous plaît, donnez-moi de la bière pour oublier que je passerai pas l'hiver. De la bière pour oublier que je mérite pas de dessert. De la bière, s'il vous plaît, donnez-moi de la bière pour oublier que je verrai pas la mer. De la bière pour oublier tout ce que j'ai laissé en arrière. Sobres et nobles ne sont pas nos nuits d'octobre qui, devant un hot dog, finissent par tirer la plug de nos vies. Déjà 3h30, y'a l'argent qui s'enfuit de nos poches et nos amis qui marchent un peu croche. Moi je connais ces gens qui ne pourraient pas vivre autrement qu'en espérant ces soirées plutôt bien arrosées, où tout le monde commence par chanter, où tout le monde finit par crier. Oh, de la bière, s'il vous plaît, donnez-nous de la bière pour oublier qu'on passera pas l'hiver. De la bière et de la bière pour oublier qu'on mérite pas de dessert. De la bière, s'il vous plaît, donnez-nous de la bière pour oublier qu'on verra plus la mer. De la bière pour oublier tout ce qu'on a laissé en arrière.
Bigayous, bigayous, écoutez, il n'y a qu'un seul mot, faites attention à la tendinite du coude. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures sur Voir avec les oreilles et bien sûr Radio Bigaille. Allez, on lâche rien et à bientôt. Bye bye.